The Star a remporté cet après-midi la 91e édition de la Casino Coupe Clark. Le cheval monté par Nivesh Tiluk a devancé Maeva de Tamoa et Harry Potter. Reportage dès le début de ce journal. Le 45e congrès du FLNKS s'est achevé au cœur de la nuit sans que des participants ne fassent de déclaration. Il semble inévitable que le FLNKS rejette le projet d'accord Bougival. Le service des urgences du Médipôle de Coutionne ne pourra accueillir ce soir que les urgences vitales et les prises en charge des femmes enceintes en cause, tout comme hier soir, un manque de personnel soignant. Une fois de plus, la CAPA a pu compter sur la générosité des Calédoniens. L'association calédonienne d'aide aux personnes âgées tenait sa kermesse annuelle au Faubourg Blanchot. Volodymyr Zelensky rejette toute cession de territoire à la Russie pour obtenir la paix. Le président ukrainien s'est exprimé aujourd'hui alors que Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront vendredi en Alaska. Et puis une petite révolution qui se prépare dans les couloirs de l'administration. Fini WhatsApp et autres Telegram. Les agents de l'État devront communiquer à partir du 1er septembre via Tchap, une messagerie 100% made in France. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. C'était l'événement du jour. Je parle bien évidemment de la 91e édition de la Casino Coupe Clark, l'épreuve la plus prestigieuse de la saison hippique en Calédonie. La victoire sur cette course au sommet est revenue à The Star devant une foule venue nombreuse pour assister à un grand spectacle, Michael Juneski.
The Star qui a touché les étoiles. Le cheval entraîné par Steven Adam de Villiers s'est imposé aujourd'hui sur les 1600 mètres de la Reine des Classiques dans une course où il a su faire la différence. Coiffé au poteau il y a deux semaines par Harry Potter sur la Clark Warm-Up, cette fois il a pris le meilleur sur ses adversaires pour franchir la ligne d'arrivée en tête pour la plus grande joie de son entraîneur et sous les acclamations du public qui a donné de la voix à dès le départ jusqu'à la fin de l'épreuve.
Et c'est deux stars qui l'emportent devant Maeva de Tamoa, Harry Potter.
C'est un cheval que j'ai fait naître et que j'ai confié à ma belle-mère qui avait envie d'avoir un cheval de course. Donc je me suis dit, ben allez, tu vas avoir celui-là pour courir. Et ça a été un bon choix parce qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Et c'est un ensemble qui fait que ce cheval arrive à courir à ce niveau-là. C'est vraiment une histoire d'un groupe. Moi, depuis que je suis tout petit, j'allais aux courses de chevaux. La Coupe Clark, ça a toujours été la Coupe Clark. À l'époque, je soutenais Bingo dans les années 90, parce que c'était un cheval qui était la propriété de Monsieur Lafleur et qui habitait pas loin de chez moi. Donc la Coupe Clark, ça a une vraie signification, c'est pas une question de dotation, c'est quand on aime les chevaux de course et qu'on a des chevaux de course, on a envie d'essayer de gagner au moins une fois dans sa vie la Coupe Clark.
Maintenant, essayer de la gagner encore et encore?
Ben écoutez, c'est tout à fait ça, la gagner c'est bien, mais quand on la gagne une fois, ben on a envie de la gagner deux fois. Donc je pense que The Star, il a encore une ou deux années devant lui qui va pouvoir essayer de défendre son titre. Puis derrière ça, ben faut investir dans la génétique pour avoir de la relève.
The Star, entraîné par Steven Adam de Villiers, propriété de Marilyn Fogliani et Robert Christian, avait notamment un atout aujourd'hui pour devancer Maeva de Tamoa et Harry Potter, deux chevaux de l'écurie de Christian Kauma. Il retrouvait son jockey Nivesh Tiluk, le Mauricien remis d'une blessure pour aller chercher la victoire.
Ah, c'est vraiment beaucoup d'émotion. La Coupe Clark pour nous, c'est comme si c'est comme l'Arc de Triomphe. Ça porte beaucoup d'importance. Je suis trop content d'avoir gagné avec un très bon cheval et merci à mes entraîneurs et propriétaires de me faire confiance aujourd'hui.
Vous aviez eu un accident, ça a été difficile de revenir dans la partie et de se remettre de tout ça?
Oui, voilà, il y a 6 semaines de cela, jour pour jour, je suis tombé à la fois. Je suis cassé les deux poignets et mon avant-bras. Normalement, c'était mort la saison, mais heureusement, j'étais bien entouré. J'ai pu revenir et aujourd'hui, je suis trop content d'avoir gagné la course.
Et Steven Adam de Villiers qui a également vu sa jument Gold Luna remporter aujourd'hui la 25e édition de l'Artipo Nouméa Cup. Plus de 2000 personnes ont fait le déplacement sur l'hippodrome Henri Millard de Nouméa pour un retour de la Coupe Clark qui n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière en raison des émeutes. Une nouvelle page de l'histoire des passionnés de chevaux s'est écrite ce dimanche sous une pluie d'applaudissements. Le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf.
La Coupe Clark, c'est la course historique, la plus belle de toutes les courses hippiques de Nouvelle-Calédonie. On sait très bien que notre pays est un pays de cheval. Il y a quasiment autant de chevaux que d'hommes en Nouvelle-Calédonie. Donc je crois que c'était important aujourd'hui de démontrer que les pouvoirs publics, les personnalités politiques, même si elles ont moins de moyens qu'avant, elles sont toujours en soutien de ce sport qui reste, à mon avis, le sport historique, le sport culturel de Nouvelle-Calédonie. Donc toujours un plaisir d'être là, et puis ça permet aussi d'échanger avec les Calédoniens.
Des courses, mais aussi des animations tout au long de la journée pour faire vibrer les spectateurs venus de toute la Calédonie pour ce dimanche de course, et notamment Natacha Blanès, 27 ans, originaire de Koumac, qui a remporté le fameux concours de chapeau de la Coupe Clark.
Pour ce chapeau, j'avais une inspiration à la base avec des plumes de paon, donc on est allé au parc forestier pour chercher quelques plumes, pour essayer d'agrémenter le chapeau au mieux. J'ai pas pu trouver mon bonheur comme je voulais, du coup c'est pour ça qu'il y a un cheval brodé de perles dessus. Et ce matin, au lever, on est allé dans notre jardin cueillir quelques fleurs pour pouvoir finir de l'embellir.
Ça fait quel effet quand on vous a dit que vous aviez remporté le concours ?
J'y croyais pas, j'ai été très surprise et très contente.
La journée aura tenu toutes ses promesses pour Éric Sauvant, le président de la Société Sportive de Nouvelle-Calédonie.
On l'a bien entendu d'ailleurs à l'ouverture des portes de cette 91e édition, c'est une foule qui s'est exclamée. Et puis c'est vrai, une course qui était montée tambour battant, on s'y attendait un petit peu. Même si la piste est un petit peu lourde, l'abord du premier virage a été assez prisé et sont retrouvés comme prévu à 4 ou 5 participants vraiment à se tirer la bourre jusqu'à la ligne droite opposée. The Star en a tiré son épingle, il était mieux positionné qu'il y a 15 jours, c'est qu'il avait retrouvé sa monte avec son jockey, on peut dire. C'est ce que j'avais annoncé d'ailleurs sur vos ondes, disant que attention, il serait très dangereux s'il avait retrouvé son jockey. Tous les chevaux partants aujourd'hui, les 11 chevaux partants, avaient leur chance de pouvoir gagner l'épreuve. Une belle journée, un beau public, 2000 personnes sur site, c'est quand même une belle réussite. C'est vrai que c'est le point d'orgue de la saison hippique. Notre sponsor, les Casinos de Nouméa, devrait être encore à nos côtés pour organiser la 92e édition, qui sera particulière. À ce moment-là, on fêtera les 100 bougies de l'existence de la Casino Coupe Clark, puisqu'elle est née, la Coupe Clark est née en 1926.
La saison des courses hippiques n'est pas terminée puisque trois réunions sont encore au programme à Bouloupari, Bouraï et à La Foye jusqu'à la mi-septembre. La réussite de cette Casino Coupe Clark 2025 et le soutien du public venu nombreux ce dimanche peut déjà laisser au monde du cheval un bel espoir de remonter la pente dans les années à venir. Nous aurons l'occasion d'en reparler dès demain sur l'antenne d'RRB puisque c'est Nicolas Schneider, le président de la Fédération des courses hippiques, qui sera notre invité du matin à 7h30.
Un reportage signé Mickaël Juneski. Il est 17h et pratiquement 53 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité politique, le 45e congrès du FLNKS s'est achevé la nuit dernière aux alentours d'une heure du matin, après une journée de discussion à la maison commune de la tribu de la Conception au Mont d'Or. Congrès qui s'est achevé sans qu'aucun participant ne fasse de déclaration. Selon nos informations, nous vous le disions à la mi-journée, une conférence de presse devrait faire le point sur ce congrès après le BP se réunira mardi. C'est à cette occasion que la motion adoptée hier devrait être rendue publique. Mais, et toujours selon nos informations, il semblerait que le projet d'accord de Bougival ait été rejeté à l'unanimité des composantes du Front indépendantiste présentes hier à la Conception. Par ailleurs, les signataires ayant été désavoués, une nouvelle équipe devrait être nommée dans les prochains jours pour reprendre d'éventuelles discussions bilatérales avec l'État. Jean-Pierre Djaoué lui invite les signataires FLNKS de l'accord de Bougival à revenir autour de la table à l'occasion du comité de rédaction. Cela permettrait, selon lui, d'éclaircir certains points. Le chef de la délégation unie estime qu'il faut tout faire pour que l'accord arrive à son terme. Il l'a dit vendredi midi, alors qu'il était l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, magazine qui est disponible, vous le savez, sur notre site internet rrb.nc et qui sera rediffusé juste après ce journal. Feuilletons à présent les pages de l'agenda de la semaine qui va débuter, une première semaine de vacances scolaires qui sera courte puisque le week-end prochain sera un long week-end de 3 jours puisque le vendredi 15 est un jour férié pour la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Comme chaque année, cette fête donnera lieu au pèlerinage de la Conception. Les pèlerins clôtureront la journée par une messe célébrée en l'église de la Conception par Monseigneur Sione Poé, l'archevêque de Nouméa. Ce sera à 15h. C'est aussi vendredi prochain que débutera la foire de Bouraille qui n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier. Grand rendez-vous à vivre sur Radio Rythme Bleu, présent sur place pour les 3 jours de foire. Avant ces festivités du week-end prochain, on retiendra et on rappellera, on le disait il y a un instant, la réunion du BP du FLNKS après le congrès du Front hier au Mont d'Or. On retiendra également que le congrès de la Nouvelle-Calédonie se réunit jeudi à 8h30. Les élus doivent entre autres étudier une loi du pays qui porte sur la lutte contre la fraude fiscale et la modernisation. Ils étudieront également 3 projets de délibération d'ordre budgétaire, parmi lesquels la décision modificative numéro 2 du budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Comme hier soir, le service des urgences du Médipôle de Coutiot ne pourra accueillir ce soir que les urgences vitales et la prise en charge des femmes enceintes. En cause, tout comme hier soir, un manque de personnel, notamment de personnel infirmier. Le syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle-Calédonie a communiqué l'information un peu après 16h, tout à l'heure, sur sa page Facebook. Le syndicat qui demande à la population d'appeler le SAMU Centre 15 pour tout conseil avant tout déplacement au Médipôle. Les visiteurs ont répondu présent pour la kermesse annuelle de l'ACAPA. Une fois encore, l'association calédonienne d'aide aux personnes âgées a pu compter sur la générosité des Calédoniens. Un jour important pour les adhérents autant que pour les visiteurs qui ont à cœur de rendre visite aux personnes âgées dans le besoin.
Ça nous fait sortir et puis découvrir et puis donner un peu la main si on peut à notre façon.
Partager et puis avec tous nos aïeux en fait. Voilà.
Pour raconter ce que vous lui avez trouvé pour la petite.
Une robe princesse.
Vu qu'elle est fan des robes de princesse, du coup, elle est trop mignonne. J'ai chopé un bonnet, il est trop mignon. Vu qu'il est tricoté, du coup, autant faire plaisir aux grand-mères. Hein.
Ça part bien, il y a mes pieds de lavande qui partent bien, il y a mes fraisiers, il y a encore beaucoup, et puis pour la capa, il faut que les gens viennent, quoi. Hein.
Je fais du bénévolat pour les personnes âgées, pour la capa, pour qu'ils ramassent un petit peu d'argent. J'espère qu'on va vendre parce qu'on a besoin d'argent. Moi qui fais tout ça, oui. J'ai 92 ans, mais je travaille toujours quand même. Je fais des gâteaux aussi, des gâteaux pieds noirs, des Monte Cao. Je fais ce que je peux pour les autres. Quand on fait du bien, on est toujours bien. Même si on n'a pas de sous, on aide les autres.
Et pour Liliane Condomi, la présidente de l'ACAPA, les fonds récoltés vont permettre d'accueillir plus d'une centaine d'adhérents dans les locaux du Faubourg Blanchot et de leur proposer des activités.
On a à peu près 140 adhérentes de personnes âgées et de bénévoles. Et donc, on a quand même des grands-mères qui sont isolées, tout ça, et on n'arrive plus à les sortir en dehors de Nouméa, alors que c'est le but de la CAPA. Alors on essaye de faire pour le mieux. Tous les jours, il y a des activités, donc ça marche bien. Et les activités, c'est nous qui les faisons, puisqu'on n'a plus de prestataires. Étant donné que nos subventions ont beaucoup diminué, on est obligé de faire avec, quoi. C'est-à-dire que nous, on est obligé de mettre la main à la pâte pour pouvoir arriver jusqu'à la fin de l'année.
Et la kermesse de la CAPA qui a refermé ses portes tout à l'heure à 15h. Et puis la grande collecte annuelle et la quête du secours catholique ont eu lieu aujourd'hui et hier. Selon la présidente de l'association, Marie-Françoise Méhoun, les Calédoniens ont été très généreux. Les bénévoles, je vous le rappelle, étaient devant 14 enseignes partenaires dans le Grand Nouméa, mais aussi en Brousse, à la fois Bouraille et Conné. Ce matin, ils étaient devant les églises et le marché municipal de Nouméa. Une collecte de dons organisée au profit des personnes les plus démunies. Un mot de l'actualité dans la région Pacifique, à Honiara, où se déroulera au mois de septembre le 54e sommet annuel du Forum des îles du Pacifique. Le Premier ministre des îles Salomon, Jérémy Amanalé, a annoncé le report à l'an prochain de la réunion qui met habituellement en présence les pays membres du Forum et leurs partenaires de dialogue post-sommet, dont les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Les médias locaux ont employé le terme « exclusion » pour expliquer l'action de Jérémy Amanalé, lequel s'en est défendu en conférence de presse. Il ne s'agit nullement d'une exclusion, mais simplement d'un report à l'an prochain, a-t-il martelé. Ce processus, a-t-il expliqué, a été reporté dans le seul but de permettre à la région de renforcer sa propre approche de dialogue avec ses partenaires extérieurs, lesquels jouent un rôle crucial pour aider le Pacifique Sud à progresser dans plusieurs domaines. Manele a également rejeté les suggestions selon lesquelles il aurait agi ainsi afin de ne pas froisser Pékin et d'éviter toute controverse concernant la Chine et Taïwan. Les îles Salomon sont une nation souveraine et nous avons pris cette décision en fonction des intérêts de la région, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde et la météo.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité à l'international et Volodymyr Zelensky qui rejette toute cession de territoire à la Russie pour obtenir la paix. Toute décision qui serait prise sans l'Ukraine serait une décision contre la paix, a affirmé le président ukrainien à la suite du rendez-vous pris entre Donald Trump et Vladimir Poutine à la fin de la semaine prochaine en Alaska. Écoutez Volodymyr Zelensky.
Les Ukrainiens ne vont pas abandonner leurs terres aux occupants. L'Ukraine est prête à prendre de véritables décisions susceptibles d'apporter la paix. Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, serait des décisions contre la paix. Elles n'aboutiront à rien. Ce sont des décisions mortenées et irréalisables.
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui s'est exprimé en début d'après-midi pour nous. Le rendez-vous entre Donald Trump et Vladimir Poutine est présenté, vous le savez, comme celui qui pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais pour le politologue Jean-Christophe Gallien, cette rencontre américano-russe cache en réalité bien d'autres enjeux.
Pour le coup, on est dans quelque chose qui pourrait accoucher d'une réalité, mais sans l'Ukraine. Donc ça paraît difficile aujourd'hui. On voit bien les efforts de M. Zelensky en préalable de ce tête-à-tête pour essayer de mobiliser ce qui reste à mobiliser autour des deux ogres, je dirais, géopolitiques qui vont se rencontrer en Alaska. Et on sent bien d'ailleurs que, au-delà de l'Ukraine, cette rencontre, c'est aussi les affaires courantes à refaire mettre entre les deux pays. On parle de l'Arctique, on parle de dossier énergétique. On est dans quelque chose qui est un peu plus large que le dossier ukrainien, évidemment. Et donc, pour autant, est-ce que c'est un moment où on décidera de l'avenir de l'Ukraine? Ça paraît un peu tôt et peut-être un peu rapide.
Le politologue Jean-Christophe Gallien est invité d'Europe 1 Week-end. De son côté, Emmanuel Macron a co-signé un communiqué avec les responsables politiques de l'Italie, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Finlande et la présidente de la Commission européenne pour imposer des mesures restrictives à la Russie avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'Union européenne également, main dans la main, pour trouver une solution contre les 15% de droits de douane imposés depuis quelques jours par Donald Trump sur le continent européen. Un pays est particulièrement touché par ces nouvelles taxes américaines, c'est la Suisse. L'administration Trump pourrait imposer des taxes qui pourraient atteindre 39%, Mathieu Prieur pour Europe 1.
Les secteurs de l'horlogerie, de l'industrie et du médical sont les plus impactés. Les milieux du fromage et du chocolat souffrent également. Les produits pharmaceutiques, piliers de l'économie suisse, sont pour l'instant exemptés par les taxes. Mais Donald Trump menace de revenir sur sa décision si les prix des médicaments ne baissent pas aux États-Unis. Plusieurs milliards d'euros devraient rentrer dans les caisses américaines. Des droits de douane qui impacteraient directement l'activité économique du pays, selon l'économiste François Savary.
Vraisemblablement que ça va réduire l'activité économique de l'ordre de 1% en 2025-2026. On sait que le gouvernement suisse avait des volontés de stabiliser les finances publiques et de réduire les dépenses. Je pense que ça, le gouvernement va vraisemblablement devoir réfléchir et revoir sa copie.
Le gouvernement suisse réfléchit à allonger la durée du chômage partiel pour limiter les répercussions sur l'emploi. Il souhaite également améliorer la compétitivité des entreprises et souhaite négocier d'autres accords avec le reste de l'Europe, notamment.
Mathieu Prieur du service économie d'Europe 1. Venons-en à l'actualité en métropole. Dans une circulaire datée du 25 juillet dernier, François Bayrou, le Premier ministre, enjoint l'ensemble des ministères à adopter CHAP. C'est un nom qui ne vous dit sûrement rien. Et pourtant, c'est une petite révolution qui se prépare dans les couloirs de l'administration française. À partir du 1er septembre, les agents de l'État devront communiquer Made in France. CHAP est une application française ultra sécurisée qui est conçue pour protéger les communications sensibles. Jacques Serret pour Europe 1.
Au revoir WhatsApp ou Telegram, bonjour, CHAP. Les agents publics ainsi que les membres des cabinets ministériels doivent migrer vers cette messagerie instantanée développée par l'État. Objectif, verrouiller les échanges sensibles face au risque de cyberattaque ou d'ingérence étrangère. Une consigne discrètement glissée au cœur de l'été dans une circulaire datée du 25 juillet. François Bayrou acte ce changement pour l'ensemble des ministères. Il est demandé de déployer largement CHAP, écrit le Premier ministre, et ce, dès qu'il s'agit d'échanges avec les administrations de l'État, car les applications les plus utilisées aujourd'hui dans les administrations comme dans les cabinets ministériels sont le plus souvent étrangères, et certaines comme WhatsApp tombent sous le coup du Cloud Act américain qui autorise Washington à accéder aux données des entreprises même hébergées en dehors des États-Unis. Avec CHAP, tout reste en France, serveur français, chiffrement de bout en bout, validation par l'ANSSI, la cybersécurité tricolore. CHAP compte déjà 300 000 utilisateurs dans la fonction publique. Il en reste plus de 5 millions à convaincre.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1 en métropole toujours. Cette nouvelle vague de chaleur qui commence à toucher le sud. 42 départements seront placés d'ici quelques heures en vigilance orange canicule. Les services de Météo France prévoient des températures en hausse. Elles pourraient atteindre, voire dépasser les 40 degrés par endroit. Météo France qui prévoit également un renforcement du Mistral et de la Tramontaine. Des conditions qui vont compliquer encore la mission des pompiers qui sont toujours sur le front dans l'Aude pour éteindre définitivement les flammes d'un incendie qui a ravagé 16 000 hectares. Hier, la directrice de cabinet du préfet de l'Aude, Amélie Triou, a présenté le dernier bilan de cet incendie.
Nous restons en vigilance orange canicule avec cette fois-ci un vent qui sera plus fort, qui sera un vent d'ouest, une tramontane, à 55 km/h. Ce qui signifie que les massifs restent fermés. Le préfet se laisse la possibilité de prolonger cette fermeture. Et les zones traversées par l'incendie demeurent bien évidemment interdites à toute personne. Je me permets d'insister sur cette consigne, c'est vraiment très important. Il est inutile et il serait vraiment regrettable de se mettre en danger. Et évidemment, je tiens à rappeler les consignes, ne pas faire de feu, ne pas jeter ses mégots de cigarettes dans la nature et vraiment limiter toute activité, notamment les activités de plein air, qu'elles soient d'ordre public ou privé.
Amélie Triou, la directrice de cabinet du préfet de l'Aude, au micro de nos confrères d'Europe 1. Il va faire beau et chaud en métropole. Quel temps en Calédonie? On en parle dans un instant.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Pas de canicule prévue chez nous, Pierre.
Pas de canicule. Par contre, une vigilance pour vent violent sera déclenchée lundi matin en raison d'un renforcement notable du vent d'ouest sur l'île des Pins. Les rafales atteindront localement les 35 nœuds, soit environ 65 km/h, tandis que les vents moyens souffleront entre 20 et 25 nœuds. Durant la nuit à venir, la couverture nuageuse s'intensifiera sur l'ensemble du territoire. Des averses fréquentes circuleront sur la façade ouest, le sud et l'île et les îles des Loyautés, où elles pourront localement être soutenues. En revanche, les précipitations deviendront de plus en plus rare sur la côte est. Le vent de secteur nord-ouest soufflera généralement entre 15 et 20 nœuds avec des valeurs plus faibles sur l'est et la pointe sud, environ 10 nœuds. Les températures resteront stables, comprises entre 18 et 22 degrés, voire en légère hausse du côté des Loyautés. Donc si vous avez froid, pas besoin de pull, il suffit de prendre le petit chaud. Demain matin, le temps s'assèchera progressivement sur la côte est, laissant place à des éclaircies. Des averses résiduelles persisteront sur la façade ouest et les Loyautés, pouvant être par moments un peu plus marquées. Le vent prendra une orientation sud-ouest, soufflant généralement entre 10 et 15 nœuds avec des rafales proches de 35 nœuds sur l'île des Pins.
Merci Pierre, il est 18h et pratiquement 10 minutes, c'est la fin de ce journal.